ces individus à ce système, même si ces mêmes individus qui y adhèrent à court terme par ces actes-là, hein, d'accord, nos achats chez Amazon, notre commande d'Uber, etc., même si ces mêmes acteurs-là, ils finissent par dire avec un peu plus de recul, ah mince, ça détruit la société, ça détruit des pans de l'économie, ça pose des problèmes, n'empêche qu'ils y adhèrent.
On présente comme un progrès le fait d'aller vers une forme d'articulation un peu commerciale entre des entreprises, d'ailleurs réduites du coup à un cercle de managers un peu étroit, et puis toute une population de travailleurs indépendants qui courent le cachet, qui sautent d'une tâche à une autre, qui passent d'un contrat ou d'un projet à un autre. Ça, cette évolution-là, elle est possible pour une partie, elle attrape quelque chose que beaucoup de gens souhaitent. Je vois bien à travers mes enfants, dans la jeune génération, une certaine mobilité, une certaine. Mais pour une autre partie, elle est absolument catastrophique et surtout, elle loupe ce qu'il y a de plus, ce que je perçois de plus intéressant dans les nouvelles dimensions du travail, la dimension coopération et la dimension innovation. Sinon, la tendance naturelle, je dirais la paresse, et ça ne nécessite pas beaucoup de créativité, c'est de continuer vers cette espèce d'émiettement de la relation salariale avec constitution d'un groupe, certes, qui ne sera jamais majoritaire, mais de plus en plus important, de salariés qui sont de faux indépendants, de faux salariés.
Le statut d'auto-entrepreneur, qui finalement ne met plus du tout en relation un employeur et un employé, mais finalement deux entrepreneurs, eh bien ce statut-là, il est une sorte d'aboutissement d'une théorie ou d'une vision plutôt néolibérale du travail, parce que on va étendre vraiment le mécanisme de la concurrence. D'accord? L'entrepreneur, au lieu d'embaucher quelqu'un et de lui donner un statut pendant un certain temps, en fait, il va faire appel à un autre entrepreneur qui va être poussé à faire le travail mieux qu'un troisième entrepreneur qu'on pourrait prendre si on n'était pas satisfait du travail qui a été fait par le premier. Donc en fait, la concurrence entre les travailleurs est beaucoup plus forte s'ils ont ce statut d'auto-entrepreneur, parce qu'ils vont tous essayer de faire le travail eux-mêmes au coût le plus bas. Ce monde un peu néolibéral que j'évoque, il est nettement plus vrai et peut-être aussi violent pour une partie des salariés qui ont peu de compétences à faire valoir, dont finalement le job pourrait être fait, j'ai envie de dire, par n'importe qui. D'accord? Et effectivement, pour ce type de travail-là, bah, les entreprises vont probablement vouloir se passer de la main-d'œuvre permanente et puis avoir recours à des contractuels, à des auto-entrepreneurs, pour tout un tas de raisons.
Il n'est pas peut-être intrinsèque au capitalisme d'avoir les salariés dans l'entreprise. C'est peut-être encore mieux quand la relation avec les salariés est une relation commerciale. Alors, vous voyez, tout ça rend un peu dubitatif quand on décrit un certain nombre d'évolutions en cours, et peut-être qu'un des enjeux actuel, un des grands clivages devant lesquels nous sommes aujourd'hui, c'est là, dans les 10 ou 20 prochaines années, dans le système néolibéral de fonctionnement du marché du travail que nous connaissons, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va de nouveau faire sortir une part importante des salariés de l'entreprise? Ou au contraire, et vous allez deviner quel scénario je privilégie, ou au contraire, est-ce qu'il faut renforcer, consolider, constitutionnaliser la présence des salariés dans les entreprises en leur donnant toute leur place dans le gouvernement de l'entreprise.
Encore une fois, l'avenir, et l'avenir selon Marx, ce n'est pas des auto-entrepreneurs. C'est au contraire que l'économie mondiale devienne une seule grande coopérative. Hein. Ce n'est pas de revenir à l'émiettement qui précédait le capitalisme. Au contraire, Marx que reconnaissait un rôle progressiste au capitalisme. Il dit, il a construit une économie mondiale. Il a interconnecté toutes les économies nationales. Il a mis fin à l'isolement des provinces, il a mis fin, etc. L'idée de Marx, c'est pas qu'on revienne en arrière à de petits producteurs émiettés, c'est pas qu'on fasse tourner de la roue de l'histoire à l'envers, c'est au contraire qu'on aille de l'avant et qu'on parte de cette base socialisée d'une économie collective en réalité que le capitalisme a mis en place.
Ce qu'on observe, c'est que le jeune qui se met à son compte, ou bien ça marche très bien, ou bien ça marche pas. Si ça marche très bien, je ne sais pas, il va se mettre dans je ne sais quel service, informatique, jeux vidéo, je ne sais pas quoi. Si ça marche très bien, pour faire face à la demande qui va venir vers lui, il va devoir faire appel à d'autres. Et donc, par la force des choses, il devient un petit patron. Puis si ça ne marche pas bien, il va devoir travailler pour d'autres. Donc on voit réapparaître sous des formes, on peut essayer d'éviter la qualification de contrat de travail, mais enfin, volens, nolens, on retrouve des formes de communauté de travail organisé avec un principe d'une certaine hiérarchie.
L'évolution économique contemporaine porterait-elle en elle la disparition du travail salarié tel que nous le connaissons ? Certains économistes le pensent fortement, d'autres demeurent beaucoup plus sceptiques. En tout cas, avec la robotisation et l'informatisation, l'avenir de l'emploi est en jeu.
Les trois unités... unité de temps, unité de lieu et unité d'action qui définissent le travail dans le capitalisme sont mises à rude épreuve par les différentes innovations auxquelles nous sommes confrontés à l'heure actuelle. Le télétravail est quelque chose qui se développe, je vois, dans des institutions comme la Banque mondiale. Aujourd'hui, de façon très claire, vous pouvez travailler à partir de chez vous. Et une fois tous les 2 mois ou tous les 3 mois, vous allez au siège de la Banque mondiale. Mais vous restez salarié de la Banque mondiale parce que vous avez Internet et vous n'avez plus besoin d'être physiquement présent pour travailler. La question de l'unité de temps. Travailler 8 heures par jour, pour un chercheur, ça ne veut rien dire. Parce que vous pouvez travailler de minuit à 4 heures du matin, parce que vous êtes plus productif, et puis dormir de 9 heures à 13 heures. Bon. Et ainsi de suite. Donc, les innovations technologiques nous poussent à repenser le consensus fordien, taylorien fordiste, qui disait finalement qu'il y a 3 unités qui définissaient le travail.
Nobody knows what's going to happen with the massive change.
Personne ne sait ce qu'il adviendra avec les changements massifs en termes d'intelligence artificielle.
An example I've used before on this issue. When I started working at the university where I
Laissez-moi vous donner un exemple. Quand j'ai commencé à travailler à l'université dans les années 70, on avait un petit département d'une douzaine ou quinzaine de membres. On avait 2 secrétaires. 35 ans plus tard, il n'y en avait plus qu'une. Une grande partie du travail que faisaient les secrétaires était effectuée par un membre du personnel. Chaque professeur avait son ordinateur et faisait ce que les secrétaires faisaient avant. J'ai fait une estimation. Il y avait eu probablement 100 pertes de postes de secrétaires à cette époque-là. J'ai ensuite regardé le nombre d'employés au département des technologies de l'informatique. Il y avait à peu près 100 personnes. Donc un type de travail avait été remplacé par un autre type. Ce n'étaient pas les mêmes personnes, mais le nombre d'emplois n'avait pas baissé. J'ai fait une petite liste thématique qui tend à répondre à la question « Que sera le travail dans l'avenir ?» Actuellement, on s'interroge beaucoup pour savoir s'il y aura encore du travail ou si une bonne partie sera réalisée par l'intelligence artificielle, des robots ou autres technologies. Alors, que reste-t-il pour les humains? Quel travail vont-ils faire? Une autre question revient régulièrement, quel temps de travail est nécessaire? C'est une idée qui circule beaucoup aujourd'hui. 8 heures par jour, une semaine de 40 heures, ce sont des choses apparues historiquement. Ce n'est pas une loi naturelle, c'est un construit historique. C'est tout à fait réversible. Aujourd'hui, c'est une question beaucoup discutée. Beaucoup de scientifiques affirment que 15 heures de travail hebdomadaire seraient largement suffisantes. Ça libérerait les humains pour d'autres activités. On pourrait faire les choses de façon très différente. Même en réduisant le nombre d'emplois, il y a une autre manière de gérer ça. On n'est pas condamné au chômage de masse. On peut simplement réduire le temps de travail. Historiquement, pas dans l'histoire récente, mais depuis 200 ans, il y a une énorme réduction dans le nombre d'heures que la plupart des gens travaillent chaque jour. Nous, on a l'impression qu'on travaille très longtemps, etc. Mais pour un travailleur en usine, si on compare la fin du XXe siècle et la fin du XIXe, il y a une réduction énorme. Et c'est du progrès. Nous pourrions transformer la nature du travail si nous le voulions vraiment. Une grande partie pourrait être éliminée. Une de nos difficultés est d'imaginer quels emplois pourraient disparaître. Aussitôt, on se dit « Oh mon Dieu, ce sera un problème. Qu'est-ce qui va se passer dans la construction, dans les usines? Les gens n'auront plus rien à faire. » Dans notre système économique, la diminution du travail pose un problème parce que ça suppose de le redistribuer afin que chacun ait sa part et puisse consacrer son temps à d'autres activités.
Is somehow completely impossible under the existing economic system, which is weird because that existing economic system.
Ça semble totalement impossible dans notre système économique. C'est étrange parce que nous pensons qu'il est le plus efficace possible, alors qu'il ne résout pas tous les problèmes.
That's how we talk about it. I don't think we should talk about it that way. I think we should think about possibilities. I think we should think about we're moving into a world where all those things that our grandparents imagined.
Je souhaite que nous allions vers un monde tel que nos grands-parents l'imaginaient quand ils travaillaient dans les usines. Ils imaginaient que leurs petits-enfants n'aient pas à travailler si dur. Ils pensaient que l'avenir les libérerait. Alors que c'est possible aujourd'hui, au lieu de fêter ça, on se demande « Mais qu'est-ce que nous allons faire ?»